Je veux dire à tous ceux que je n'ai pas pu saluer individuellement. Bonjour et je suis contente d'être avec vous. Joyce aussi est contente d'être avec nous et nous sommes très contents d'avoir avec nous notre plus jeune petit enfant, notre petite fille Gwenaëlle, qui est en première, elle. Et vous pourrez faire sa connaissance après le culte si vous l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous invite à trouver dans la parole de Dieu Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, et nous allons lire les versets 4 à 13. Nous sommes heureux, comme toujours, d'être avec vous. Nous avons passé des moments bénis ensemble. Je me souviens donc d'un week-end à Joude. Plusieurs étaient là, certainement. Plus récemment, à Lu. L'année dernière, mais aussi ici, à différents moments, donc dans l'église, tant à la rue Boiron, oui, ça remonte à là, et puis ici. Je me souviens d'être venu regarder un terrain vague avec quelques garages, si je me souviens bien, en disant à la fois, voilà, c'est là où sera donc implantée la nouvelle nouveau bâtiment de l'Église. Et quelle grâce que le Seigneur nous a accordée de pouvoir avoir cette propriété et ce beau bâtiment. Beaucoup de souvenirs, je ne vais pas revenir sur tout. Mais nous allons lire donc Philippiens chapitre 4, versets 4 à 13. J'avoue que c'est un passage qui me touche beaucoup. C'est un passage qui est un de mes préférés. C'est un passage qui est très positif, très encourageant pour ceux qui mettent en pratique les paroles de ce passage. Ce n'est pas un passage difficile, au fait, comme vous allez voir. Ah si, quand même. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Facile, n'est-ce pas? Je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, et toutes les femmes, disons. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Oh Paul, écoute, franchement, tout est facile pour toi, Paul, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Mais il nous donne la clé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ces choses soient l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurer votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela à raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation, car ils ont contribué aux besoins matériels de l'apôtre Paul. Nous allons nous incliner dans la prière. Notre Père Céleste, je te bénis aujourd'hui pour ce passage que tu nous as donné, qui est pour moi un passage de grand encouragement. Mon désir, Seigneur, le plus profond ce matin, c'est que je puisse vraiment ouvrir ce passage et transmettre ta parole pour chacun de nous aujourd'hui. Seigneur, nous sommes tous très différents, chacun, chacune vit une situation complètement différente de l'autre, mais le Saint-Esprit est là, et je demande à ce que lui interprète et applique cette parole à chacun et à chacune selon son besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens à chaque fois que je me mets derrière le pupitre, la chair, pour annoncer ta parole, qu'en moi, je ne suis rien et j'ai tant besoin que tu me donnes la parole et ta grâce pour pouvoir annoncer cette parole. Je te remercie pour ta présence avec moi aujourd'hui, que tu nous parles à chacun de nous, là où nous sommes, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas si j'ose poser cette question, mais vous vous êtes levé ce matin avec quel état d'esprit? Bon, alors, j'ai une heure de plus pour dormir, c'est formidable, oui. Ou bien il y a quelque chose là, dans le fond, dans le creux de l'estomac, qui ronge, un problème, une difficulté, une crainte du lendemain. J'ai un texto d'un de mes petits-fils ce matin qui appréhend aller au travail demain parce qu'il a un patron qui est vraiment, je dirais, méchant avec lui. Et il a partagé ça avec moi ce matin, donc je prie pour lui. Comment est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin? Quel était votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous préoccupait le plus aujourd'hui, sachant que vous alliez venir à l'église et partager un culte d'adoration avec vos frères et sœurs? Est-ce que c'est ça qui était vraiment en premier dans votre esprit? Ou vous avez des invités, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais il faut que je rentre vite, que je prépare, que la cuisine et tout, et puis bon, ben, on a des soucis comme ça, bon, ben voilà. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent entrer dans notre esprit. Ou peut-être un grand sujet de joie. Je vais aller à l'église, je vais aller voir mon petit ami ou ma petite amie, je ne sais pas, bon, ben, moi je connais ça un petit peu. Ou quelque chose qui vous occasionnait du souci, voire de l'angoisse. Il faut dire qu'il y a de quoi, car nous vivons dans un monde en désarroi, un monde qui semble avoir perdu ses repères, sans que personne ne semble pouvoir inverser le cours des choses. Il serait trop facile de se réveiller le matin dans la crainte, dans la colère même. Voilà. Certainement dans la grogne, ou même le désespoir. Et pourtant, étant enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, il y a tant de sujets de louange et de reconnaissance envers le Seigneur. Nous en avons chanté ce matin. Nous avons chanté beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour nous réjouir dans le Seigneur. Dieu a été fidèle envers l'Église de Villefranche-sur-Saône à travers de nombreuses années. Déjà, quand je vois ce bâtiment, je vois la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et je pense qu'il y en a certains qui remercient le Seigneur chaque fois qu'ils viennent dans ce bâtiment de vous avoir donné. Je fais la comparaison à la rue Boiron et puis, bon, ben, franchement, il n'y a pas de comparaison. Mais enfin, Dieu a créé ici une famille aimante, je le sens quand j'arrive, aimante et solidaire. Il vous a permis de rayonner et de toucher de nombreuses personnes avec le message de salut et une vie de plénitude en Jésus-Christ. L'apôtre Paul vivait dans un monde qui était aussi corrompu, détraqué, et désespéré que le monde dans lequel nous vivons, et peut-être même davantage. Et pourtant, Paul était un chrétien profondément reconnaissant. Reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour lui, pour la grâce de Dieu dans sa vie, une grâce qui surabondait, il a dit. Par exemple, il a proclamé aux Corinthiens, je cite deux exemples parmi bien d'autres, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Christ. » Est-ce que vous vivez le triomphe jour après jour en Christ, ou au moins la plupart du temps? Grâce soit rendue, merci Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, nous vivons le triomphe en Christ, nous vivons le triomphe sur les attaques de Satan. Et nous avons la possibilité, parce que Jésus-Christ est en nous, de surmonter et de vaincre. Autre chose, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, Jésus-Christ, et ainsi de suite. Et cet esprit de reconnaissance a permis à Paul de vivre dans la paix et la confiance, malgré de grandes souffrances. Si vous voulez savoir un petit peu les souffrances de Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 11 vers la fin du chapitre, et vous verrez tout un catalogue de souffrances de l'apôtre Paul. Personne ici n'a jamais vécu ça. Alors, enfin, je pense que non. Enfin, vous avez vécu autre chose, mais là, il y a une liste impressionnante. Et pourtant, Paul a appris que la grâce de Dieu lui suffisait. Voilà, vous savez, à différents moments dans notre ministère, Joyce et moi avons dû faire face à certaines choses, notre vie de couple, de famille, de ministère. Et nous prêchons la vérité, la victoire en Christ, etc. Et parfois, nous disons maintenant, il faut commencer à pratiquer ce que nous prêchons. Et nous vivons en ce moment un de ces moments qui, pour nous, sur le plan physique, n'est pas facile. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, car nous ne savons pas donc ce que l'avenir nous réserve sur le plan de la santé à cause de problèmes particuliers que je ne vais pas mentionner ce matin. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu va nous soutenir dans cela. Nous n'avons pas peur. Si Dieu nous prend l'un ou l'autre, après 54 ans de mariage, quelle est notre attitude? Merci Dieu, notre Dieu, pour les 54 merveilleuses années que nous avons vécues ensemble en tant que mari et femme, pour ces années de ministère que nous avons vécues ensemble. Alors, je ne dis pas que d'ici un an, l'un de nous va disparaître. J'espère que non, mais enfin, la santé commence à poser un problème. Et nous disons, grâce soit rendue à Dieu. Il nous a bénis. Et sa grâce sera toujours là, en mesure plus que suffisante pour notre besoin. Tout comme l'apôtre Paul, le chrétien qui va de l'avant et qui grandit dans le Seigneur est une personne profondément reconnaissante. Si ce matin vous vous dites chrétien et vous n'êtes pas une personne reconnaissante, alors il y a une case dans votre vie chrétienne qui manque. Excusez-moi de le dire, hein, mais par définition, un chrétien est une personne reconnaissante. Ai-je raison ou ai-je raison? Enfin, reconnaissant pour toute la bonté et la grâce de Dieu à son égard. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu de problèmes, de difficultés, certaines affreuses et pénibles, mais la grâce de Dieu est là. L'apôtre Paul a dit, mais j'ai un problème, j'ai une écharpe dans ma chair. On ne sait pas ce que c'est, merci, parce que on peut s'identifier avec lui. Il a dit, mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever cette écharpe. Je la laisse pour une raison bien précise, pour que tu ne sois pas orgueilleux. Je te la laisse, mais avec ça, je te donne assez de grâce, même plus que suffisamment de grâce, pour supporter cette épreuve. Et Paul a dit, je remercie le Seigneur. Ça, c'est l'attitude qui peut vaincre tout dans cette vie. Et cet esprit de reconnaissance est une source de bienfaits incroyables qui nous permet de surmonter nos échecs, nos craintes, nos difficultés, nos épreuves, et de vivre dans une joie véritable et durable. Ça ne veut pas dire que nous allons rire tout le temps. Parfois, nous allons pleurer. Mais nous allons nous réjouir et nous allons être reconnaissants. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Bon, j'ai même pas commencé le message. Hein? Si. Mais est-ce que votre vie est une reconnaissance continuelle envers Dieu? Ce matin, je voudrais proposer 5 vérités. Je vais essayer d'aller vite, donc, pour ne pas vous importuner. 5 vérités ou bénédictions qui encouragent l'enfant de Dieu à vivre dans la reconnaissance. D'abord, vivre dans la reconnaissance, c'est obéir à un commandement de Dieu. 1 Timothée 5, 18 dit, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » En toutes circonstances, rendez grâce. Pourquoi est-ce un commandement de Dieu? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous demande, nous ordonne même d'être reconnaissants? Avez-vous une idée?
Toute chose concourt au bien de Dieu.
Oui, c'est vrai, mais j'allais dire, bon, mais c'est vrai, parce que toute chose concourt au bien, mais l'esprit humain est de nature à ne pas être reconnaissant. Regardez autour de vous, ou plutôt écoutez autour de vous. Qu'est-ce que vous entendez le plus? Reconnaissance ou grogne? Ah ben voilà, bon. Donc, la reconnaissance n'est pas une réaction normale et habituelle de la nature humaine déchue. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Nous apprenons à nos enfants tout petits à être reconnaissants. Pas simplement de dire merci, mais de ressentir la reconnaissance. Et ce n'est pas toujours facile. La reconnaissance est tout d'abord et spontanément l'obéissance à notre Père Céleste qui nous aime. Rendez toujours grâce, dit Paul aux Éphésiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez toujours grâce au Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La reconnaissance est donc la volonté de Dieu. Si nous sommes reconnaissants, nous vivons dans sa volonté. Et pour des raisons que nous allons voir tout à l'heure, mais tout comme tous les commandements, ce commandement est pour notre bien et pour notre progrès spirituel. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et il sait que nous sommes plus heureux quand nous avons un esprit de reconnaissance. Où est-ce que nous avons cette idée que les commandements de Dieu sont pour mettre des bâtons dans la roue et d'être des rabat-joie? D'où est-ce qu'on a cette idée? Satan. Déjà dans le jardin. Ah, Dieu a-t-il vraiment dit? Ah, Dieu ne veut pas parce que tu seras comme lui. Dieu ne veut pas votre bien. Bon, mais c'est la première phrase, les premiers mots que nous avons de Satan remettent en contradiction la bonté de Dieu à notre égard. Et depuis, nous tombons dans le panneau à chaque fois. Dieu veut notre bien. Ses commandements sont pour notre bien. Je ne vais pas faire le récit de tous les commandements et comment ils nous rendent heureux. Mais franchement, je peux vous dire que les personnes qui n'obéissent à ces commandements ne sont pas des personnes vraiment heureuses. Ils ont une façade, peut-être, d'être heureux. Mais dans le fond, ils ne sont pas heureux. Dieu a dit, si vous m'obéissez, vous serez heureux. Donc, un commandement, soyez reconnaissant. Ça change tout. Mais rendez-vous grâce en toutes circonstances, il a dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Oh, mais quand même, Dieu, ça c'est un peu fort, hein? Non, il n'a pas dit rendez grâce pour la circonstance, mais dans la circonstance. Il y a une différence. On n'est pas masochiste. On ne dit pas, Dieu, donne-moi des preuves pour que je sois reconnaissante. Non. On dit, je suis dans une situation difficile et pénible, j'ai une épreuve, Seigneur, et je te remercie parce que tu es là avec moi dans l'épreuve. Il m'est arrivé même de remercier le Seigneur pour l'épreuve, parce que j'ai appris quelque chose. Certains d'entre nous sont un peu durs, donc ça pénètre lentement. Donc Dieu est obligé quand même de prendre les moyens un peu plus extrêmes que pour d'autres. Et par certaines choses, j'ai appris, les choses pénibles, j'ai appris quelque chose sur Dieu. Et j'ai pu même remercier Dieu pour l'épreuve. Mais c'est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve et on dit merci Seigneur parce que je sais que ta grâce est là et tu vas m'aider à vivre cette épreuve. La reconnaissance n'est pas une attitude qui dépend de nos circonstances. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Mais quand tout ne va pas bien, alors est-ce qu'on est reconnaissant? Non, la reconnaissance ne varie pas selon notre situation. La reconnaissance est une qualité permanente de notre vie de chrétien. C'est un fruit de notre relation avec Dieu. Et quand on est reconnaissant, je vais vous dire une chose très importante. Satan ne peut pas gagner la victoire dans notre vie. Si nous sommes reconnaissants, ça fait obstacle à l'action de Satan dans notre vie. Parce que Satan veut que nous vivions dans la grogne. Et quand on vit dans la grogne, on n'est pas heureux. Quand on vit dans la reconnaissance, on est heureux. Dieu, il a quand même une intelligence un peu plus grande que la nôtre, n'est-ce pas? Bon. Deuxième vérité que j'aimerais partager, là je vais lire dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. La reconnaissance est une réponse convenable, je dirais logique et raisonnable, vu tout ce que Dieu a fait pour nous. Colossiens 1, 12 à 14. Avec joie, rendez grâce à Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Voilà trois choses, trois raisons pour remercier Dieu, et pas les moindres. Si la reconnaissance est logique et raisonnable, elle devrait être spontanée. Parce que là, Dieu nous a accordé le privilège de partager l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Alors, j'ai l'impression que là, ça ne vous excite pas du tout. Hein. Vous regardez, franchement, je dirais que ça ne nous touche pas du tout. Moi, je suis content d'être un héritier de Dieu et un co-héritier de Jésus-Christ. Ah, c'est fantastique! Moi qui suis pécheur, moi qui a été rebelle contre Dieu à différents moments, il m'accorde d'être son héritier avec Jésus-Christ et avec tous mes frères et sœurs en Christ. Ça ne vous excite pas un tout petit peu quand même? Bon. Deuxième chose, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous n'avons pas besoin de vivre dans une lutte constante contre le mal, c'est toujours là, le mal est toujours autour de nous, mais nous sommes en réalité dans le royaume de son Fils. Il dit dans Éphésiens que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc déjà, nous avons gagné la victoire, il suffit de vivre la victoire que Jésus a gagnée pour nous. Et est-ce que vous le faites? Est-ce que je le fais? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur nous. Comme beaucoup de gens dans ce monde, ils sont sous l'emprise de ce monde de ténèbres. Mais nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Troisième chose, il nous a rachetés, il nous a libérés. Nous étions esclaves du péché. Et je pense dans l'histoire affreuse, cette partie était affreuse des États-Unis, où il y avait des marchés d'esclaves, et on voit ça dans les films. Et on a acheté des êtres humains. Et ils étaient esclaves. Et Jésus est venu. Il est venu parce que nous étions vendus en esclavage à Satan. Et il est venu, il a envoyé Jésus-Christ, qui nous a rachetés. Et il nous a transformés. Il nous a donné le pardon de nos péchés. Trois choses que nous connaissons bien, mais pour lesquelles nous devrions spontanément être reconnaissants. Si Dieu a fait tout cela pour nous, la reconnaissance est une réponse logique et raisonnable. Et chez l'enfant de Dieu, elle doit être spontanée. Troisième vérité, c'est un antidote puissant contre l'amertume. Est-ce que ce matin, vous avez tendance à vivre un peu dans l'amertume? Est-ce qu'il y a des chrétiens amers ou des non-chrétiens amers ici? À la reconnaissance, c'est l'antidote. Je crois que dans la reconnaissance est liée au contentement. Paul a exprimé son grand contentement dans sa lettre aux Philippiens. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'ai appris le secret du contentement dans toutes circonstances. Et puisqu'il a appris le contentement, Paul a pu être reconnaissant. Le problème, c'est qu'on n'est pas content. Et il y a des gens qui ne sont jamais contents. Est-ce que vous êtes content ce matin? Non, ben, répondez pas, hein, mais répondez à vous-même. Est-ce que vous êtes content ce matin? Et il dit à Timothée, la piété, j'aime pas trop le mot piété, je sais pas. Ça fait un peu poussiéreux, ça fait un peu, tu sais pas, piété, non. J'aime beaucoup mieux le mot en anglais. Savez-vous le mot en anglais? Le mot en anglais, c'est godliness. Ça veut dire être comme Dieu, ressembler à Dieu. C'est mieux que piété. Piété, ça, mais je ne sais pas. On a des souvenirs de ce mot qui ne sont pas forcément positifs, n'est-ce pas? Être comme Dieu, c'est mieux. Et il a dit donc, être comme Dieu et être content en même temps est une grande source de gain. Et c'est pour ça que Paul a été victorieux. Les enfants d'Israël ont connu un échec terrible dans le désert parce qu'ils sont devenus mécontents. Alors, vous parlez des Français qui sont grognants. Hein? Dès notre arrivée en France, il y a 54 ans, on nous a dit que les Français ils sont toujours en train de se plaindre de quelque chose. Bon, voilà. Bon. Soit. Mais vous lisez Astérix et ils disent la même chose. Bon. Mais c'est rien à voir avec les Israélites dans le désert. Hein? Alors, là, ils se plaignaient de tout. Dieu leur avait délivré de l'esclavage en Égypte, et la première chose, c'est « Ah, ça ne va pas, on veut rentrer en Égypte. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est la confiance en Dieu? Ils ont vu des miracles frapper l'Égypte, des 10 plaies et tout. Ils sont sortis donc avec grande victoire, ils sont face à la mer Rouge, et la première chose, c'est la grogne, c'est la plainte. Ah, il faut rentrer en Égypte, il aurait mieux ne pas quitter l'Égypte. Bon, ben. Et vous voyez que Moïse, pendant 40 ans, a dû faire face à ces gens-là. Moi, j'aurais pas tenu, hein. Franchement. Au bout de 6 mois, j'aurais jeté l'éponge. Bon. Non, mais là, franchement, vous êtes des ingrats, je ne veux plus vous voir. Bon. Non, mais Moïse a tenu bon. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient mécontents? Parce qu'ils ont focalisé leur attention sur ce qu'ils n'avaient pas, au lieu de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Où est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez les quelque chose qui ne vont pas dans votre vie? Ou est-ce que vous regardez tout ce que Dieu a fait pour vous, à commencer par votre salut et votre délivrance du royaume des ténèbres, le pardon des péchés, une relation avec un Père céleste qui est formidable, qui est là pour nous aider, une grâce qui surabonde. On a toutes les raisons pour être reconnaissants. Mais parfois, Satan, il veut nous focaliser notre attention sur la chose ou les petites choses qui ne vont pas. Et le résultat, on tombe dans le panneau. C'est pas tellement différent en 2018, hein? En observant toutes les revendications qui se font de nos jours. Bon, mais il y a certes des revendications qui sont justes, hein? Je suis pas contre les revendications, si les revendications sont justes. Mais j'ai l'impression qu'on tombe dans le piège, plus on a, plus on revendique. L'auteur chrétien Chesterton a dit, il y a deux moyens pour obtenir assez. Le premier, c'est de vouloir accumuler de plus en plus. Quand on a cela comme but dans la vie, accumuler de plus en plus, on n'a jamais assez. Parce qu'il faut toujours accumuler. Donc la deuxième façon d'obtenir assez, c'est de désirer moins. Ah, ça c'est pas tellement l'air du temps en 2018, d'obtenir moins, désirer moins. Et puis les pubs, oh mais franchement, quand je regarde, quand j'analyse certaines pubs, c'est absolument ridicule. Il y a des choses dont je n'ai absolument pas besoin, mais les pubs voudraient me faire penser que si je n'ai pas tel dentifrice, je suis nul. Si je suis une fille et je n'ai pas tel dentifrice, je ne suis pas sexy, je ne suis pas attrayant, je ne suis pas... Ben, je suis nul. Ben, il faut tel dentifrice ou je ne sais pas autre chose. Hein. Et si vous n'avez pas telle voiture, écoutez... Vous n'êtes rien. Comment osez-vous avoir une voiture d'une autre marque que la nôtre qui... je ne sais pas. Analysez les pubs et vous verrez pourquoi les gens ne sont pas contents. On nous rend mécontents parce qu'on fait miroiter des choses qui sont absolument fausses et on n'est pas content. Alors ne tombez pas dans le piège. Le président de nos pasteurs de notre faculté, où j'ai assisté aux États-Unis, faculté chrétienne, avait l'habitude de dire, alors, c'est un peu long et je vais le répéter, mais ça vaut le coup de la prendre par cœur. Le cœur qui est reconnaissant envers Dieu pour toute sa miséricorde, est conditionné par une douceur du Saint-Esprit contre l'amertume de la déception humaine. Ça, c'est un gros morceau. On va le redire. Le cœur qui est reconnaissant envers Dieu pour toute sa miséricorde est conditionné. Conditionné par une douceur du Saint-Esprit contre l'amertume de la déception humaine. Si vous ne l'avez pas saisi, je veux bien vous l'envoyer, si vous me donnez votre adresse e-mail, ça vaut le coup de la prendre par cœur. Une personne reconnaissante est rarement, et j'oserais dire jamais, une personne aigrie. Une personne reconnaissante est rarement ou jamais une personne aigrie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Merci. Parce que je ne voudrais pas que vous ayez tort. Bon. Le résultat pour Paul de son contentement, c'est que Dieu lui a donné la possibilité d'être à la hauteur de tout en Christ. C'est-à-dire de vivre dans presque n'importe quelle circonstance et ceci sans plaindre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, j'ai souvent entendu ce verset cité à la légère et hors de contexte. Ce n'est pas un verset à appliquer n'importe comment. Cette souplesse dont parle l'apôtre Paul vient d'une attitude mûre en Christ, elle vient d'une disposition au contentement. Paul pouvait tout en Christ parce que, comme il dit, il avait appris un esprit de reconnaissance. La reconnaissance est un antidote puissant contre l'amertume. Montrez-moi une personne amère et je vous montrerai une personne qui n'est pas reconnaissante. Excusez-moi, mais c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Bon. Alors, enfin, on en parlera. Et je me presse. Quatrième chose, c'est une clé de la paix intérieure. Versets 4 à 7 de Philippiens 4. Se réjouir et rendre grâce sont liés. Tout comme nous devons rendre grâce en toutes circonstances, que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, de même nous devons nous réjouir toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah, mais ça c'est... Paul, quand même, n'ai-je pas le droit de temps en temps de dire « j'en ai marre » Non, tu n'as pas le droit. Je regrette. Tu peux le faire, mais ça ne va pas te faire du bien. Il est important de remarquer que nous devons nous réjouir dans le Seigneur et non pas dans l'augmentation que nous avons reçue ou dans la promotion ou dans la belle voiture que nous venons d'acheter, etc., ou la belle maison, ou ceci ou cela et autre chose, même le petit que le Seigneur amène dans notre famille. Bon, mais ce sont des choses, oui, on est reconnaissant de cela, mais il est important de nous réjouir dans le Seigneur et tout ce qu'il est pour nous. Le chant que nous avons chanté les merveilles que Dieu a fait pour nous. Vous avez vu comment ça s'est terminé? Le mot « faire » s'est transformé en mot « être ». Tout ce que tu es pour nous. Et c'est ça la clé. C'est pas « Seigneur, tu as fait ça ». C'est « Seigneur, tu es ça pour moi ». Et on est reconnaissant pour cela. Le Semeur traduit le verset 4, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans ce que le Seigneur est pour vous. Nous pouvons nous réjouir dans notre situation, de notre famille, des biens que Dieu nous a donnés, et ainsi de suite. Mais il est juste d'être profondément reconnaissant de tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Mais nous nous réjouissons surtout dans tout ce que le Seigneur est pour nous. Lors du moment de prière au verset 6, lorsque il dit, mais en toute chose, par la prière et l'action de grâce, prière et la supplication, il a dit, avec action de grâce. Le résultat, c'est que Dieu enverra sa paix pour monter la garde autour de nos cœurs et nos pensées. Si nous prions avec action de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Vous savez que le mot dans le grec, c'est intéressant, gardera. Ça veut dire, c'est un mot qui s'applique à une unité de soldats qui gardent une entité quelconque. Et les soldats sont placés tout autour pour garder. La paix de Dieu va monter la garde et Dieu enverra, un peu comme ses anges, pour nous donner la paix. C'est formidable. Est-ce que vous avez la paix ce matin? Alors, priez avec reconnaissance. Ça changera certaines choses. Pourquoi est-ce que Dieu désire garder nos cœurs et nos pensées? Parce que nos cœurs et nos pensées sont le siège de nos anxiétés, de nos craintes et de notre amertume. Mais c'est aussi de nos cœurs et de nos pensées que vient la reconnaissance. En ce qui concerne nos pensées, nous devons déterminer dans notre esprit d'être reconnaissant. Il faut déterminer d'être reconnaissant, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Nous ne pouvons pas toujours déterminer ou contrôler nos circonstances, mais nous pouvons déterminer notre attitude dans ces circonstances. Ça dépend de nous. Les circonstances, on n'a pas toujours contrôle. Mais notre attitude, nous pouvons contrôler notre réaction. Il ne s'agit pas de donner un coup de baguette magique qui s'appelle reconnaissance. La reconnaissance est un état d'esprit permanent de l'enfant de Dieu, du chrétien mûr, une attitude qu'il faut cultiver. Alors finalement, juste un autre point pour terminer, j'ai été long. La reconnaissance crée une attitude et une ambiance, une atmosphère de bénédiction. Alors, je ne cite pas de passage précis parce que cette vérité est implicite partout dans les Écritures. Je pense par exemple à l'attitude des espions envoyés pour explorer Canaan. Comment est-ce que les gens ont réagi? Les espions sont revenus et 10 sur 12 ont dit, aïe, 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 là, impasse. Oh non, 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 on ne peut pas y aller, c'est des géants, c'est pas possible. Alors, ils pensaient à eux. Ils ne pensaient pas à Dieu. Dieu n'était plus dans la photo, quoi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, tout le monde s'est monté contre Moïse, sauf Caleb et Josué. Et Caleb et Josué sont les seuls de toute cette bande, au-dessus de 20 ans, à entrer dans le pays promis. Parce que ils ont suivi le conseil, l'avis de ceux qui étaient négatifs et qui ne suivaient pas Dieu et qui n'étaient pas reconnaissants. Voilà. Cet esprit de critique s'est répandu sur tout le peuple, sur 1 million de gens en plus. Mais nous voyons comment cela se passe dans une famille, ou bien au travail, dans la vie d'une église ou ailleurs. Il suffit que quelqu'un commence à se plaindre, et petit à petit, cela va infecter la vie de l'église. Mais il suffit que quelqu'un dans l'église ait une attitude positive, réjouissante, content sur le Seigneur. Et cela aussi, ça peut changer l'ambiance d'une église, d'une famille. Joyce ne va pas aimer ça, mais enfin, je vais le dire quand même. Je suis tellement heureux d'avoir épousé une femme qui est foncièrement reconnaissante. Et elle a absolument infiltré notre vie de famille, de reconnaissance. Nos enfants ont capté cette reconnaissance. Je ne sais pas pour nos petits-enfants, j'espère que c'est le cas aussi. Et nous avons dans notre famille, grâce à une femme qui aime le Seigneur et qui a appris la reconnaissance de ses parents aussi, nous avons une famille reconnaissante. Parce que c'est contagieux aussi, la reconnaissance. Essayez ça. Essayez de changer l'ambiance à votre travail ou à votre école. Ça peut se faire. Parfois, j'ai un malin plaisir à changer l'ambiance en étant gentil. C'est tellement inattendu que les gens font attention. Mais c'est chrétien aussi. C'est chrétien. Bon, ben, je m'arrête là. Simplement en disant que ma prière, j'allais parler de comment cultiver un esprit de reconnaissance, mais ce serait pour une autre fois. Ma prière, c'est que l'église de Villefranche-sur-Saône soit enrichie et bénie par un esprit de sincère reconnaissance, un esprit qui vous permettra de grandir dans le Seigneur et de rayonner par sa gloire dans toute cette région. Vous savez, un esprit de reconnaissance rend une église attrayante. Vous êtes une église attrayante et je pense que vous êtes dans l'ensemble reconnaissant. Et cela, c'est cela qui permet d'attirer d'autres vers le Seigneur. Que Dieu nous aide tous à saisir les énormes bienfaits d'un esprit de reconnaissance et de vivre cette reconnaissance jour après jour comme témoin de sa grâce. Amen.